Annie Shapiro qui va nous donner quelques nouvelles, des choses, des idées reçues, revenir un petit peu sur des connaissances. Et promis, nous ne parlerons pas de virus. Alors, écoutons Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jacques.
Alors, depuis que vous êtes déconfiné, que vous pouvez même aller sur la plage, respirer l'air du large, vous avez bien de la chance, hein. Nous ici à Anga, on a le lac, mais on peut pas y aller. Alors, eh bien, donc, Nathalie, vous allez nous dire aujourd'hui dans vos fake news là ou dans vos vraies nouvelles, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire si on m'opère de la cataracte, je vais.
Peut-être mieux dormir, ça paraît surprenant, mais en fait pas tant que ça. Il faut savoir que dans les cellules de la rétine, elles sont photosensibles, et elles envoient des informations dans des noyaux du cerveau qui, eux, règlent la sécrétion de mélatonine. Donc en fait, il y a un lien entre la lumière bleue qui est reçue par donc ces rétines et les informations envoyées au cerveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ophtalmologistes se demandaient depuis quelque temps, si le fait d'être opéré de la cataracte, ça pouvait améliorer cette information. Et pour le savoir, il y a eu une étude de fait. Alors, il faut quand même savoir qu'entre un jeune enfant de 10 ans, donc qui a un cristallin parfaitement transparent, et un adulte de 95 ans qui a un
Cataracte.
cristallin qui est complètement trouble, par exemple, la différence est phénoménale. Le premier voit 10 fois plus le spectre bleu, c'est-à-dire les lumières bleues, 10 fois plus que celui de 95 ans. Donc il y a quand même une grosse perte d'information. Et alors donc il y a eu une étude pour comparer des gens qui avaient été opérés de la cataracte et d'autres non. Et ben la bonne nouvelle, c'est que après opération de la cataracte, en fait, la mélatonine est mieux sécrétée. Et la mélatonine, pourquoi elle est importante? Parce que sa sécrétion, elle est aussi liée avec le moment où on va s'endormir et la nuit, comment elle se passe. Donc, du coup, pour les gens qui avaient une cataracte et qui ont perdu le sommeil, ça peut jouer et ça peut nettement améliorer le sommeil. Donc, c'est une bonne nouvelle puisque l'opération de la cataracte est quand même très courante et elle se fait quand même assez facilement.
Eh ben voilà, si vous dormez mal, faites-vous opérer de la cataracte. C'est du
Non, sous
Nathalie.
réserve que vous en ayez besoin, bien sûr.
Ah bon, j'avais pas suivi. Mais Nathalie, dans son délire, entre guillemets, non, allez, je suis méchant. Nathalie nous dit, le moustique tigre est partout, sauf en Bretagne, évidemment.
Exactement, mais il est en
Bon, ça.
Loire-Atlantique qui se rapproche.
Ah, voilà. Alors, le moustique tigre, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le moustique tigre? Alors, parce que c'est
Et bien
pas
là,
si
il se réveille,
anodin.
il est en pleine phase. Non, je trouvais que tout le monde en avait assez d'entendre parler du Covid, donc il faut un petit peu changer de mauvaise
De
nouvelle,
pathologie,
quoi.
oui.
Voilà, et donc là on va passer au moustique tigre parce qu'il est en pleine phase de réveil et le moustique tigre quand même il peut transmettre la dengue ou le chikungunya, donc deux petites choses amusantes. Alors en 2019, j'étais assez étonnée du chiffre, mais il y a eu 400 cas de dengue en France. Donc il est évidemment très implanté en région PACA. Il est chez vous, Jacques, dans le Val-de-Marne. Il est en région parisienne, mais alors il n'est pas dans les Côtes d'Armor. Nous, on l'a pas du tout. On est tranquille pour l'instant. Donc, a priori, en Bretagne, vous pouvez venir cet été. Vous risquez pas trop de dengue ou de chikungunya.
Et vous savez que le meilleur moyen de prévention du moustique tigre, c'est de ne pas laisser d'eau stagnante.
Tout à fait. Donc, pas de peau qui traîne avec un petit peu d'eau aux pieds, pas de gamelle pour le chat à proximité de la maison, à l'extérieur, pas de choses comme ça.
Ou alors on met des têtards dans les bassins. Comme ça, ils mangent les larves de moustiques. Bon, la dernière nouvelle, c'est que malheureusement, avec le confinement, on a arrondi un petit peu nos formes. Alors, est-ce
Oui, deux
que...
kilos et demi par français, paraît-il.
Oui, ça c'est gentil. Alors, et vous avez la solution, bien sûr, Nathalie.
Avec que pour les femmes, parce que
Ah
pour
bah.
les hommes, ça marche pas, apparemment. Je suis désolée, Jacques. Mais il y a une étude, alors c'est pas une étude hyper fiable, c'est-à-dire qu'elle a simplement, elle montre pas le lien de cause à effet, mais elle retrouve deux liens sans savoir si statistiquement l'un est responsable de l'autre. Il semblerait que le café permette de faire fondre la graisse abdominale à hauteur de 4% chez les femmes. Et alors, ça n'est pas la caféine qui est responsable de cette bonne action, mais ce serait un autre composé bioactif. Il y en a une douzaine dans le café, il n'est pas encore tout à fait identifié, donc l'étude continue. Et pour voir s'il y a moyen d'en prendre, peut-être plus tard par gélule ou autre. Mais en attendant, la consigne pour perdre un petit peu de graisse abdominale, sous réserve que ça soit confirmé plus tard, ce serait chez les femmes de 20 à 44 ans d'en prendre 2-3 tasses, et chez les femmes un peu plus âgées de prendre une tasse de plus.
Et ben voilà, donc en plus d'un rééquilibrage alimentaire quand même, parce qu'il faut peut-être un petit rééquilibrage alimentaire pour...
Ah bah oui, ça. Si vous mangez des frites et des nuggets, ça va pas être terrible.
Voilà, et la crème de lait avec le café, c'est peut-être pas idéal non plus. Et,
bon, et les 4 sucres non plus.
Et les 4 sucres non plus. Ben voilà, on prend du café sans rien d'autre, hein, et on va avoir son périmètre qui va maigrir, mais de toute façon, comme il fait froid en Bretagne, on ne pourra pas se mettre en maillot de bain. Merci beaucoup Nathalie. Non, c'est pas vrai, il fait toujours beau en Bretagne.
Il fait pas froid, il fait un peu plus froid que dans le sud de la France, ça c'est vrai, mais ça évite qu'on ait les canicules.
Et voilà, et ça évite le moustique tigre. Merci beaucoup Nathalie, à bientôt.
Merci Jacques.
Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai les prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré.
Vous êtes toujours sur le journal de la santé et du bien-être naturel, Radio IDFM Anguin 98. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez retrouver les podcasts des émissions que vous auriez manquées, notamment du journal de la santé, sur le site de la radio, Radio IDFM Anguin 98, ou sur mon site personnel, soignéparlesplantes.com. Donc le site de la radio ou mon site personnel. Alors je vous ai dit, nous étions en Bretagne avec Nathalie. Maintenant nous allons avec le docteur Dubos aller dans les Landes. Le docteur Dubos est un médecin qui a un profil un petit peu particulier puisqu'il a été médecin humanitaire avec des ONG Médecins Sans Frontières. Il a fait de nombreuses missions en Afrique. Il est pédiatre de formation, mais il est aussi écrivain. Et écrivain dans son aérial gascon, il a une maison près dans les Landes, et il aime cette culture landaise, il aime cette culture du sol, ses racines landaises, et il a déjà écrit plusieurs livres. Et là, il va nous faire découvrir un de ses nouveaux livres. Il a une double polarité, donc je vous l'ai dit, il aime les Landes et il aime aussi le Canada. Alors on lui demandera pourquoi ce mélange entre les Landes et le Canada, et il a même écrit des pièces de théâtre. Enfin bon, le docteur Dubos fait partie de ces personnages qui sont des vrais personnages et qui sont intéressants à entendre, à écouter. Eh bien, écoutons-le. Bonjour Alain Dubos.
Bonjour, comment allez-vous ?
Eh bien ça va, merci. Et vous êtes confiné comme tout le monde, mais confiné dans un département qui est quand même très agréable, hein, les Landes.
Je suis confiné dans les Landes où il fait beau, où il y a de l'espace évidemment.
On va couper, docteur Dubos, parce que vous allez nous mettre le moral à zéro. Donc on va pas continuer sur ce thème parce que là.
C'est abominable.
Non.
Il pleut sans arrêt. Non, c'est terrible.
Voilà, c'est mieux. Et c'est ce que. Et pourquoi nous avons invité le docteur Alain Dubos? Parce que, on le connaît déjà pour beaucoup de livres qu'il a publiés, notamment sur les Landes et sur le terroir gascon. Et là, il a commis, j'allais dire, un nouveau livre qui s'appelle Le dernier combat du docteur Cassagne. Alors, c'est le dernier combat du docteur Cassagne ou c'est le dernier combat du docteur Dubos?
J'espère que c'est pas mon dernier combat. En ce moment, là, je lutte contre une nature, assez généreuse avec des ronces. Voilà, vous savez, ça pousse au printemps. Enfin bref, ça c'est mon combat ici de confiner chez moi. Non, j'espère écrire encore. Et puis voilà quoi. Donc il y a ce roman. Il y a aussi des choses que j'écris sur. Sur la Nouvelle-France, enfin bon.
Alors voilà, c'est un autre combat du docteur Dubos, c'est l'Acadie, hein. Mais l'Acadie, on en a déjà parlé, on en reparlera une autre fois. On va parler du dernier combat du docteur Cassagne. C'est pas un roman gascon, c'est un roman plutôt thématique, c'est-à-dire c'est le combat de la mémoire, le combat du terroir par rapport à la modernité, peut-être quelquefois mal conçue.
Oui, si vous voulez, c'est jusqu'à présent j'avais écrit beaucoup de choses sur le passé, hein, sur la métairie, sur la forêt, sur la résine, sur tout ça. Là non, c'est contemporain et c'est un petit peu, une fable sur l'urbanisation. Quand on est en périphérie de ville comme moi, c'est Mont-de-Marsan, hein, c'est pas c'est humain. Mais quand même, on voit le paysage qui change, on voit des choses qui, vous avez le même décor urbain ou périurbain à Mont-de-Marsan ou à Atlanta en Géorgie ou à Vancouver au Canada ou à Moscou ou à Hong Kong. Je veux dire, c'est complètement mondialisé ça déjà. Alors sur un petit périmètre comme ça, eh ben mon pauvre docteur Cassagne, il va subir une espèce de plan d'utilité publique. Qui va amputer sa mémoire. C'est quelque part, ça le heurte, ça le choque parce que on vient comme ça mettre de l'asphalte et puis pour faire rouler des camions et des voitures sur une bretelle d'autoroute. Ça a l'air de rien. Et quand vous avez ça chez vous, ce qui est un peu mon cas aussi, et ben d'un seul coup, c'est tout votre décor qui change, c'est toute votre vie qui change et votre mémoire. Donc voilà, il lui arrive ce qui nous est arrivé ici à ma famille, qu'on soit obligé comme ça de voisiner d'un seul coup avec un espèce de ruban d'asphalte sur lequel passent des véhicules. Et alors il va accepter un petit peu mollement parce qu'il a plus l'âge de se battre beaucoup et il va être sauvé. Bon, mais ça c'est la fin du livre.
Malgré le rapport de force, quelquefois les papillons l'emportent sur les camions.
Eh bien, c'est un rapport de force, mais c'est un rapport de force, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Vous ne pouvez pas lutter contre ça, parce qu'on dit, mais monsieur, ça, si vous vous rendez compte, c'est l'extension, machin, le commerce, enfin, tout ce qui est arrêté aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est arrêté en ce moment. D'un seul coup, c'est ça devient quelque chose d'extraordinairement important. Et en tant qu'individu, citoyen de base, ben vous êtes obligé de vous effacer. Voilà. Alors c'est frustrant. C'est frustrant. Mais bon, dans le livre, il y a plein de personnages plus ou moins pittoresques, je dirais. Il y a un petit fils qui est autiste. C'est un petit peu sur le passé, certes, sur le présent, bien sûr. Hein. Enfin, l'affrontement, la confrontation entre la mémoire et le futur, avec des personnages qui se débattent un petit peu au milieu de tout ça, quoi.
C'est un peu l'histoire du docteur Dubos, qui, comme on le sait, ou comme on le sait pas toujours, a commencé par faire de la médecine humanitaire.
Oui, c'était la période romanesque ou romantique, je dirais, de Médecins sans frontières, quand on partait avec pas grand chose, mais avec déjà la certitude de servir, les moyens qui sont venus quand même, hein, très rapidement, la certitude de servir, vraiment, à l'origine du mot, on va se dire servir, quoi, voilà, se mettre au service, se mettre à la disposition des gens pour les aider. C'était ça. Et donc, sur une période qui est la période des années fin 70, début 80, où là, évidemment, il y avait, un peu comme aujourd'hui, hein, il y avait vraiment des réfugiés qui arrivaient de partout et qui nous ont forcés à grandir. Voilà, je dirais ça, comme ça.
Et alors, en trempant votre plume dans l'humanitaire, j'allais dire, vous avez fait prendre conscience aux habitants, bah notamment des territoires du Sud-Ouest, de la richesse sur laquelle ils étaient, et dont ils n'étaient pas toujours conscients peut-être. Donc ça, c'était vos livres précédents, où vous parliez de terroir, de la révolte des métayers, avec des moments plus difficiles que d'autres. Et puis maintenant, c'est l'aboutissement en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez joint l'humanitaire de MSF à l'humanitaire local en disant c'est le même combat pratiquement.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que tout ça, on parlait de l'époque, hein, des années 80. Moi, je suis d'une génération qui a été, complètement protégée par le mur de Berlin. La génération des années 40, je suis né dans les années 40, jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'est un monde binaire, est-ouest, et si vous êtes à l'ouest, dans des conditions, je dirais, privilégiées, vous êtes en paix pendant 50 ans. La périphérie de ça, évidemment, c'est l'est, et c'est nos patients des années 80, qui fuient l'Afghanistan soviétisé, qui fuit Mengistu en Éthiopie, qui fuit le Cambodge des Khmer Rouges. Bref, nous, on a été complètement protégés, et c'est vrai que aujourd'hui, là je fais une petite digression sur nos jeunes gens d'aujourd'hui, on a fabriqué des générations de gens qui n'ont pas du tout eu la mémoire qu'on a eue, nous, des deux guerres mondiales. Nos jeunes aujourd'hui, enfants, petits-enfants, ils ont la mémoire d'une période finalement ultra protégée, où les 68, bon d'accord, très bien, hein, on va pas revenir là-dessus, mais ça c'est un caprice de la jeunesse de l'époque, les 68. Donc voilà, et ça c'est très intéressant pour faire un parallèle entre une génération comme la mienne et la génération qui va être celle de mes petits-enfants aujourd'hui, par exemple, vous voyez. Et donc, c'est vrai que les conflits, les guerres, tout ça, c'était de l'autre côté du mur. Aujourd'hui, tout est différent. Tout a explosé. Il y a des murets partout. On construit des murs autour de chaque pays, quasiment, maintenant. En plus, avec le virus. Donc, c'est tout à fait différent. Un monde totalement différent. Donc, voilà. Moi, j'ai connu ce monde-là.
Mais il a connu aussi, le docteur Cassagne, l'exode rural quand même, parce qu'il y a eu les migrants, mais il y a eu l'exode aussi vers la ville, qui était l'appel d'air en quelque sorte, où tout devait se passer, et maintenant on voit le contraire, on voit le retour à la campagne, oui. Et quelquefois qui se passe pas sans difficulté d'ailleurs.
Oui, oui, mais je crois que c'est absolument obligatoire, et je me demande dans quelle mesure cette pandémie d'aujourd'hui ne va pas provoquer un choc en retour. C'est-à-dire que, bon, vous avez vu, Paris s'est vidé de 25% de sa population, de gens qui sont d'un seul coup allés retrouver, non pas les racines, mais des endroits où on respirait peut-être un air un peu moins délétère. Et peut-être que ça a déjà, je veux dire, les conditions de vie dans les villes ont fait que beaucoup de gens recherchent depuis 20, 30, 40 ans, recherchent l'air, le bon air. Voilà, on va appeler ça comme ça. Il se peut que cet épisode viral accentue ce mouvement et qu'on voit peut-être maintenant aussi des plus jeunes qui vont chercher quelque chose, un travail, une façon de vivre de façon plus importante qu'il y a seulement quelques mois ou années. C'est possible.
Et ces néo-ruraux, ils seront peut-être de bonnes aides pour les prochains docteurs Cassagne, pour lutter contre justement l'envahissement du béton, l'envahissement de l'asphalte et l'urbanisation du rural.
Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a quand même une prise de conscience, parce que juste avant, on est en même temps, je dirais en même temps, c'est à la mode, il y a donc cette affaire médicale, où scientifique, voilà, comme on voudra, virale, et puis il y avait en même temps le plan d'urbanisation pour les 10 ans qui viennent. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de consigne nationale qui est fait qu'on n'étend plus les villes. On arrête avec ces périphéries qui sont complètement mondialisées et qui cassent absolument le décor qui donnent même pas envie de rentrer dans une ville, tellement c'est pareil partout, même une ville historique. Et donc il y a une espèce d'évolution pour, c'est pas mieux, à mon avis c'est pas mieux, pour densifier ce qui est à l'intérieur des rocades ou des périphériques, vous voyez. Et ça, c'est vraiment c'est l'orientation des plans d'urbanisation pour les 10 années qui viennent, les années 2020. Et donc, on va arrêter, heureusement, de bétonner la campagne, mais on va surbétonner l'intérieur des villes. Et à mon avis, je pense que ça va être un argument de plus pour les fuir, ces villes. Voilà.
Donc voilà, comme quoi le docteur Cassagne a encore de beaux jours devant lui, et ce n'est peut-être pas son dernier combat.
Eh bien oui, parce que en fait, bon, il se bat pour son petit bout de décor finalement et de mémoire, et puis il va être aidé, donc comme je disais au début, par un phénomène naturel qui va obliger les bétonneuses à rebrousser rapidement le chemin.
Eh bien, on n'en dit pas plus, docteur Dubosc. On laisse nos auditeurs découvrir le dernier combat du docteur Cassagne qu'on peut avoir à la FNAC sous forme numérique, n'est-ce pas?
Oui, alors, c'est ça, c'est important de le dire. C'est un livre, donc, pour lequel je suis en train de préparer une édition papier, mais qui, pour l'instant, est simplement numérique, c'est-à-dire que on peut le lire sur liseuse, sur écran d'ordinateur, sur téléphone portable ou sur tablette. Voilà, tous les petits outils de lecture d'aujourd'hui.
Et on peut le télécharger, donc, facilement.
Oui. Il suffit de le... On commande, on le charge et on le lit. C'est une très grande simplicité.
Ce qui est plus facile en période de confinement. Merci beaucoup.
Ah oui. Oui, mais j'avais pas entendu, mais... Ah oui, ça c'est idéal pour le confinement.
Merci beaucoup, docteur Dubosc, et on vous dit à bientôt, et puis bon séjour dans les Landes, même s'il ne pleut pas, tant pis pour nous.
Oui, dommage, hein. On vous attend.
Ben oui, dès que nous serons déconfinés, hein. Merci beaucoup.
Voilà.
Au revoir.
Merci à vous.
On rêvait d'irréel, de joyaux. De pépites dans le lit.
cachait le néant et le mal. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la terre, trouver sous la chair ces gemmes arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel.
Un petit tour dans Bretagne, dans les Landes, ben maintenant je vais vous emmener faire un petit tour en vélo. Ben oui, je vous ai promis, on ne parlerait plus de virus, c'est vrai, on ne va plus en parler, mais on va parler de vélo, parce que beaucoup d'entre nous se sont remis au vélo, notamment dans les grandes métropoles, notamment dans la région parisienne, et les vélos, on sait ce que est le risque principal, en dehors de l'accident bien sûr, le risque principal du vélo, c'est de se le faire voler. Eh oui, pour ça que certains enlèvent même la selle pour éviter qu'on leur pique leur vélo. Et mais les vélos disparaissent. Et surtout, le problème du vélo qui a disparu, c'est qu'on les retrouve souvent. La police les retrouve, mais ne peut pas les identifier. Alors, elle se retrouve très vite avec des stocks de vélos qu'elle ne sait, dont elle ne sait pas quoi faire. Et il y a une technique maintenant, et c'est pour ça que nous avons eu une invitée qui nous a dit, avec Paravol, on vole beaucoup moins les vélos et surtout, on va retrouver votre beau vélo. Alors, écoutons toujours le journal de la santé et du bien-être naturel. Écoutons Paravol.
Bonjour.
Alors, Natacha est la responsable de communication d'un site qui s'appelle lecyclo.com, comme son nom l'indique, qui s'occupe donc de cyclotourisme ou de cyclo en général. Mais nous l'avons invité pour un accessoire qui me semble très utile, qui a été créé il y a 2 ans par sa société, à savoir, ça s'appelle Paravol. C'est bien ça?
C'est ça, tout à fait.
Alors, Paravol, ça nous a été interpellé parce que, effectivement, si le vélo, la pratique du vélo est bonne pour la santé, souvent, malheureusement, on se fait piquer son vélo, hein, surtout dans les grandes villes, et surtout quand il y en a beaucoup qui sortent, comme en ce moment, en période de grève. Alors, le problème, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a 400 000 vélos chaque année en France qui sont volés.
Oui, c'est à peu près ça, le chiffre qu'on a, c'est une moyenne, mais donc, c'est 400 000 vélos volés par an en France, et donc avec Paravol qui est un identifiant sticker à coller sur son vélo, on arrive à réduire, on a comptabilisé environ 30% de moins le risque de se faire voler son vélo.
Oui, parce que voilà, le problème qui vient, c'est que on se fait souvent voler son vélo, donc. Mais quand on le retrouve, on ne peut pas toujours identifier, les services de sécurité peuvent pas toujours identifier le propriétaire du vélo.
En effet, c'est un problème qu'on rencontre souvent dans le cas du vol du vélo, c'est que on arrive à retrouver les vélos des fois quelques mois après, et soit la plainte n'a pas été déposée, soit le propriétaire n'a pas réussi à être identifié, ou en tout cas le vélo n'a pas réussi à être identifié, et dans ce cas-là, le vélo ne peut pas être restitué à son propriétaire, bien qu'il ait été retrouvé.
Donc le vélo est perdu. Alors, grâce à vous, les vélos ne seront plus perdus. Mais c'est quoi exactement Paravol ? Ça consiste en quoi ?
C'est en fait un petit sticker que vous allez venir poser sur votre vélo. Ce sticker est équipé d'un code ainsi que d'un QR code, donc comme un code barre en fait. Et il va permettre, vous enregistrer ensuite sur une base de données, la base de données Paravol, vous enregistrez votre nom, prénom, vos coordonnées. Vous enregistrez également votre vélo. Et à partir de ce moment-là, votre vélo est lié à votre identification et on a moyen de vous retrouver juste en scannant le petit code barre qui se trouve sur le sticker.
Mais alors, ce sticker, on peut le mettre, mais est-ce qu'on peut l'enlever ?
Alors non, c'est un autocollant qui est quand même assez robuste. Il est fabriqué en acrylate, qui est un matériau utilisé dans l'aéronautique. Il a également un gravage au laser, donc l'autocollant ne peut pas être poncé ou détérioré, et il résiste aux aléas de la météo, du coup, comme les fortes chaleurs ou les intempéries pluvieuses, par exemple.
Il résiste aux chalumeaux ?
Pardon ?
Il résiste aux chalumeaux ?
C'est une matière qui est utilisée en aéronautique, donc c'est sur des conditions quand même relativement extrêmes. Le chalumeau, il me semble, je ne saurais pas. Je pense que ça n'a pas été testé jusqu'à ce niveau-là.
Bon, alors donc, pratiquement, comment doit-on faire si on tient à son vélo ?
Alors, bon, déjà, vous avez, au-delà, donc vous pouvez l'identifier grâce à Paravol.
Donc, on achète un sticker, en fait. On achète
un sticker. Voilà, vous achetez le petit sticker, vous vous rendez ensuite sur le site de Paravol. Vous complétez votre profil.
Alors Paravol, P-A-R-A-V-O-L. Hein.
C'est ça. Vous créez votre compte avec l'identification qu'il y a sur le sticker et vos coordonnées. Et après, il faut quand même bien penser à bien attacher son vélo parce que ça n'empêche pas les voleurs non plus de le prendre complètement. Ça réduit le risque, ça permet de le retrouver, mais il est essentiel d'avoir quand même une bonne protection pour son vélo.
Et en 2 ans que vous fonctionnez, ou que fonctionne Paravol, est-ce que vous avez pu noter une diminution de l'incidence des vols des vélos qui stickaient ?
Alors, l'incidence, elle a été calculée en fait sur des grandes données. En tout cas, il y a eu des restitutions de vélos. On a réussi à retrouver les propriétaires grâce à Paravol.
D'accord, ben c'est une sorte de plaque d'immatriculation, quoi, en fait.
Exactement.
Et de toute façon, je crois que l'immatriculation des vélos va être obligatoire en 2021.
Exactement. À partir de, en fait, la loi d'orientation des mobilités qui a été votée là en fin d'année 2019 prévoit justement dès 2021 le marquage des vélos neufs pour tous les vélos mis sur le marché.
Bon, donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller sur le site Paravol, P-A-R-A-V-O-L, acheter son sticker. Et ça vaut combien un sticker ?
Alors, le sticker, il est actuellement sur lecyclo.com à 11,99€.
Bon, alors 11,99€ pour un vélo qui est quand même d'un prix nettement supérieur, je pense que ça peut être considéré comme un bon placement, n'est-ce pas ?
Oui, complètement.
Et ben voilà, et ben je crois qu'on va tous se mettre à Paravol, et puis ben on pourra continuer en cas de grève persistante à utiliser notre vélo, qui, rappelons-le, de toute façon est bon pour la santé. Merci beaucoup, Natacha.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Notre invité suivant, je sais que vous l'attendez. Je sais que vous l'attendez parce que vous nous le réclamez souvent. C'est le docteur Zontag. Le docteur Zontag a dans sa pharmacie à Nancy beaucoup, beaucoup de plantes médicinales qui peuvent nous rendre de grands services au quotidien. Et aujourd'hui, il va nous indiquer ses petites formules, toujours les formules dont il a le secret, pour préparer notre peau à l'été. Et oui, parce que le printemps a été un petit peu difficile, avec le confinement, on a été un petit peu avec une alimentation un petit peu trop riche. Donc comment faire en sorte que l'été se passe bien, que la peau ne souffre pas, et notamment que les dégâts du soleil ne soient pas importants, et qu'au contraire, les bienfaits le soient. Alors donc, eh bien, nous allons écouter le docteur Sontag, notre chroniqueur habituel du journal de la santé et du bien-être naturel, toujours sur Radio Anguin, IDFM 98. Vous savez que vous pouvez nous poser des questions à nos experts sur le site de la radio, Radio IDFM Anguin 98, ou sur mon site personnel, soignéparlesplantes.com. Nos experts répondront à vos questions, ou nous-mêmes, si nous le pouvons. Ne quittez pas, donc nous faisons entrer le docteur Sontag. Alors, nous retrouvons le docteur Sontag, qui est toujours à Nancy, à la pharmacie des Thermes. Ça y est, le confinement est terminé, donc la place Stanislas a retrouvé son monde.
Tout à fait, il était temps.
Alors, il y a un problème, vous savez que vous avez lu, hein, comme tout le monde, on a lu surtout la bascule, on a vu qu'on a tous pris un peu de kilos pendant le confinement, évidemment, le réfrigérateur était trop près. Alors, vous n'avez pas une préparation là qui pourrait nous aider à perdre un peu de périmètre abdominal, là?
Ben si, bien sûr, c'est sûr qu'avec ce confinement, on a tous pris 1, 2, voire 3 kilos, et maintenant qu'on a le droit d'aller sur la plage depuis hier, n'est-ce pas? C'est quand même pas mal, et on n'a pas encore le droit de s'allonger, mais ils ont raison, il faut faire attention. En juillet-août, on aura peut-être la possibilité de bronzer. Donc on va travailler sur ces deux thèmes-là, perdre quelques poids. Alors bien sûr, vous me connaissez, je vous ai fait un petit mélange avec des extraits hydroalcooliques, teinture mère ou extrait fluide, selon ce que l'on peut trouver. Alors les teintures mères, un petit rappel, plantes fraîches, macérées dans de l'alcool, extrait fluide, plante sèche, macérée dans de l'alcool. Donc on va commencer par le pissenlit, le taraxacum. Pourquoi le pissenlit? Parce que il y a deux choses importantes. Il va falloir à la fois drainer le foie, nettoyer, faire baisser les graisses du sang, et puis y en avoir un diurétique pour que ça dégage. Alors on va, avec ce pissenlit, avoir un draineur hépato-biliaire. Il va faire baisser le cholestérol, au passage, c'est toujours bon à prendre. C'est un bon diurétique, qui, entre parenthèses, fait baisser l'urée et l'acide urique. Et puis, c'est un hypolipémiant, c'est-à-dire qu'il fait baisser les graisses du sang. Donc, ça, c'est une plante en or, c'est qu'elle de le dire, puisqu'elle a cette belle couleur jaune, le pissenlit en premier. En second, on va mettre de la fume-terre. Fume-terre parce que c'est une plante dépurative, aussi, parce que bon, faut insister sur cet aspect dépuratif, c'est aussi un draineur, hein, hépatique, mais aussi pancréatique. Il faut savoir que le pancréas va nous aider aussi dans ce travail de perdre du poids. L'aspect de la fume-terre intéressante, c'est que aussi hypolipémiant, fait baisser la graisse du sang, et puis elle va travailler sur la bile. Et aussi, elle est déjà un petit peu diurétique, vous voyez. Bon, la bile, pourquoi? Ben, pour faciliter la digestion. Et on va avoir cet aspect aussi, on commence à avoir une plante un petit peu diurétique. On va affirmer cet aspect diurétique par le cassis. On fait vraiment appel à son activité diurétique. Il a aussi une activité aussi sur la circulation, ça c'est important aussi. Et puis, il va faire baisser aussi l'urée et l'acide urique. Encore une fois, c'est toujours bon à prendre. On a encore une quatrième plante qui est l'orthosiphon. Là, on est en plein dans le diurétique pur et dur. Un petit peu collagène, c'est-à-dire qu'il augmente la fabrication de bile. Donc, il va se compléter avec des plantes qui étaient au-dessus. Et puis, c'est, ma foi, sans problème, la plante qu'il faut parce qu'elle va, elle va faciliter l'élimination. Ensuite, pour terminer le travail, la piloselle, qui est aussi un bon vieux diurétique. Deux diurétiques, plus le cassis, c'est pas trop. Et deux plantes, donc, pour drainer le foie et le pancréas. Alors, on va prendre, comment on va faire? On va prendre 100 gouttes matin, midi. Je déconseille le soir parce que vous risquez un petit peu de vous le relever la nuit. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est même mélanger les 300 gouttes dans un litre d'eau et boire ça tout au long de la journée. Ça, c'est déjà vraiment un mélange intéressant qui va vous permettre donc d'éliminer et puis de commencer à perdre du poids. Important aussi, bien sûr, le gant de crin, mesdames et messieurs aussi d'ailleurs. Le gant de crin, c'est important aussi parce que si vous avez la graisse au niveau de la peau, il faut casser les fibres graisseuses de façon à les faire repasser dans le sang. Alors, au passage, une petite Caralouma, qui est intéressante, ça existe en EPS, c'est-à-dire en extrait glycériné. Ce Caralouma, il travaille vraiment sur la satiété. Ça, c'est pour ne pas trop grignoter encore, parce qu'on a pris de mauvaises habitudes, et on les avait peut-être déjà avant d'ailleurs. Et le Caralouma agit sur la leptine. Vous savez que la leptine, c'est une hormone dite de satiété. Sauf que la pauvre leptine, qui est noyée dans les graisses du ventre, quelquefois, ma foi, elle est un petit peu déficiente. Donc le Caralouma va lui donner du peps et va permettre de remettre en route cette activité qui est quand même assez intéressante de satiété. Ça marche pas mal, hein. Il faut prendre une cuillère à café, une, deux fois par jour, quand on veut, et puis voir un petit peu le résultat. Ensuite, bien sûr, hein, pas de laitage, pas de sucre, je rigole parce que chaque fois je radote, je dis ça, les trois, hein. Pas de sucre, pas de laitage, et bien sûr, pas de viande, rouge surtout, la viande blanche à la rigueur, mais pas de viande, de façon à en faire pas vraiment un régime, mais faire vraiment attention, parce que c'est pas la peine de prendre des mélanges, si c'est par ailleurs pour augmenter ce que l'on mange, et surtout les matières grasses. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est le soleil. Alors, le soleil, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, se préparer au soleil. Il faut avoir, d'une part, un foie en bon état, donc on va prendre aussi... Vous voyez, on arrive toujours à la même chose, hein. Le foie, c'est quand même un organe extrêmement important, et on va agir sur des plantes qui vont travailler sur le foie et sur la peau. Et la plante idéale, bien sûr, c'est la bardane. La bardane, qui est à la fois un draineur cutané, c'est ce qu'on appelle un cholérétique, donc elle va faciliter l'élimination de la bile, et puis c'est aussi un anti-infectieux. Alors ça, c'est important aussi, parce que l'acné, on utilise la bardane pour l'acné, et il faut avoir une peau en bon état, et c'est vrai qu'il est préférable de ne pas avoir d'acné, surtout quand on va au soleil. Donc, important cet aspect antiseptique. Et puis, c'est aussi un diurétique. Vous voyez, on revient avec ce thème d'éliminer. Il faut utiliser toutes les facettes d'une plante. C'est ça qui est intéressant. Jouer avec toutes les facettes de façon à avoir quelque chose de cohérent. Deuxième plante, la pensée sauvage, la tricolore, qui est un petit peu le pendant de la bardane, mais un peu plus anti-inflammatoire cutané. C'est un draineur, bien sûr, cutané et hépatique. Donc, les deux-là, elles sont inséparables, toujours à mettre ensemble. Ensuite, on va rajouter, je souris parce que c'est la salse pareille, j'aime beaucoup la salse pareille, vous savez que c'est la plante des schtroumpfs. C'est une plante qui facilite l'élimination, qui fait baisser le cholestérol, et c'est aussi un diurétique. Et c'est une plante qui fonctionne bien, hein, comme pour nettoyer l'organisme, indépendamment du fait que, bien sûr, les schtroumpfs l'utilisaient beaucoup. Donc, une cuillère à café de ce mélange le matin avec de l'eau. Ça sera suffisant, surtout si vous démarrez maintenant. Mais il faut faire ça assez tôt, hein. Faut pas attendre la veille de partir en vacances. Donc avec ces deux mélanges-là, on couvre quand même pas mal de choses. Et puis, bon, on pourrait, si vous le voulez, rajouter un petit mélange d'huile, hein, pour, ma foi, l'aspect élasticité de la peau. Moi, j'aime bien la bourrache, qui est une huile végétale intéressante, parce qu'elle est à la fois régénératrice, réparatrice, elle donne de l'élasticité, c'est vrai, hein, à la peau, et puis elle a la réputation de limiter le vieillissement de la peau, ce qui est toujours bon à prendre à nos âges. Donc la bourrache, essentiellement pour le visage, et puis le noyau d'abricot, l'huile végétale du noyau d'abricot, qui est intéressante parce qu'elle assouplit et tonifie la peau. On pourra l'utiliser plutôt pour le reste du corps. Il y a l'argan aussi qui est intéressante parce qu'elle est nourrissante. L'argan aussi, c'est une plante, c'est une huile assez noble. On va l'utiliser pour le visage. Ça, c'est pour l'aspect extérieur, mais c'est important aussi de préparer. Mais on peut commencer maintenant, hein, la bourrache, on peut la commencer maintenant. Et vous verrez, hein, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous voyez, la peau devient beaucoup plus élastique. Et ça fonctionne pas mal. Ensuite, bien, ma foi, les petits bobos. Je pense que les piqûres d'insectes, c'est pas nouveau, mais c'est toujours bon à rappeler. La lavande avec de l'alcool, c'est quand même pas mal. Ça gomme assez vite, même très vite, la douleur, et puis ça empêche l'inflammation. Donc on va mettre dans un petit flacon de 60 millilitres à peu près une trentaine de gouttes de lavande, et on va compléter avec de l'alcool à 90 ou à 70, plutôt à 90. Et puis, dans un petit vaporisateur, et on vaporise ça en cas de piqûre. Les coups de soleil aussi, vous en aurez malgré tout. Alors, l'huile de millepertuis, c'est l'huile reine, puisque vous savez qu'elle est anti-inflammatoire. Elle gomme d'ailleurs aussi, d'une manière extraordinaire, tout ce qui est brûlure ménagère, un coup de fer à repasser, un truc comme ça. Vous mettez de l'huile de millepertuis tout de suite, mais en abondance. Hein. Vous laissez une compresse longtemps. Je vous garantis que le lendemain, vous n'avez pratiquement plus rien. Si ce n'est que plus rien, ça m'est déjà arrivé, mais pas avec un fer à repasser, je le précise. Les Romains l'utilisaient déjà. C'est une plante mythique. On pourrait faire une émission sur le millepertuis parce que c'est une plante extraordinaire, tout à fait modeste, mais qui a des propriétés extraordinaires, y compris d'ailleurs des propriétés antidéprimes, antidépression. Voilà, docteur Labesca, ce qu'on peut dire pour les plantes intéressantes de l'été.
Eh ben voilà, je crois qu'on est paré. Hein. Le docteur Zontag nous a indiqué comment faire pour perdre notre ventre, nous a indiqué comment faire pour s'allonger sur le sable quand on aura le droit, hein. C'est pas encore acquis.
Oui.
Voilà,
on aura
pour
droit.
Pouvoir bronzer en paix. Eh ben, je crois qu'on peut que remercier le docteur Zontag et lui souhaiter bon courage à la pharmacie des Thermes à Nancy. Bon courage, docteur Zontag.
Merci, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Et bien, toujours sur le radio IDFM Anguin 98, le journal de la santé et du bien-être naturel, comme dernier invité aujourd'hui, nous avons invité un président du territoire, le président du territoire EPT10, dans le Val-de-Marne, monsieur Jacques J.P. Martin. Jacques J.P. Martin, avec les élus solidaires, a lancé une opération, à savoir... Le principal pollueur d'une ville au sol, c'est le mégot de cigarette. Et oui, on le sait, on a fait des études, le mégot est vraiment le principal polluant, et à lui seul, il peut polluer plus de 500 litres d'eau, et pendant de longues années. On le retrouve ainsi au niveau des usines de purification de l'eau, ou carrément dans les fleuves, voire en mer, et c'est un polluant important. Donc, Jacques J.P. Martin a eu l'idée, avec le groupe des élus solidaires, de faire en sorte d'éliminer les mégots, qu'ils ne soient pas jetés au sol, d'ailleurs, entre parenthèses, jetés au sol en métropole, ils sont pas trop dangereux, mais en forêt, ils peuvent aussi provoquer un incendie. Donc, arrêtons de jeter nos mégots, mettons des collecteurs de mégots, parce que l'intérêt maintenant, c'est qu'on peut valoriser ce qui est un déchet polluant. Donc, nous avons eu l'idée d'inviter Jacques J.P. Martin, qui pourra donner peut-être des idées à ses collègues élus, à savoir comment faire qu'une ville devienne zéro mégot au sol. Écoutons le président du territoire EPT10, Paris-Est, Marne et Bois, nous parler de cette opération zéro mégot. Alors, comment vous vous occupez des mégots, monsieur le maire ?
Écoutez, je m'occupe des mégots. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que je puisse m'occuper des mégots alors que je n'ai jamais fumé de ma vie. Ce qui est un peu, disons, en gros, j'aurais dû ne pas me sentir concerné par les mégots. Mais en réalité, les mégots nous concernent tous, car les mégots, sur la voie publique, c'est une plaie d'abord au niveau de l'espace public et de la propreté. Mais par la suite, cela devient un problème particulièrement difficile à régler, notamment quand les mégots se retrouvent dans les réseaux d'assainissement et qu'au bout du tuyau, on arrive dans une station de traitement des eaux usées. Les mégots avec les lingettes sont des éléments très perturbants dans le retraitement de l'eau, dans la mesure où ils nous bouchent l'ensemble des systèmes d'alimentation des décanteurs. Donc le mégot, s'il pouvait s'arrêter, au cendrier du fumeur, ça faciliterait la vie de tout le monde, y compris de celles et ceux qui veulent lutter contre les pollutions. Et par conséquent, quand on regarde sur les terrasses des cafés ou certains endroits la quantité de mégots qui sont dans les caniveaux, on sait très bien que la pluie aidant, les caniveaux vont directement vers soit le milieu naturel quand ce sont des eaux de pluie puisqu'elles sont pas captées par les tuyaux d'assainissement, soit dans les stations d'épuration quand les réseaux sont connectés. Donc l'objectif, c'était d'essayer de réduire cette pollution qui était à la fois visuelle, mais aussi chimique et particulièrement dangereuse pour le fonctionnement de nos stations d'épuration. Donc la meilleure des solutions, c'était d'aider les fumeurs, d'abord à fumer moins, si possible, mais surtout aussi à ne pas mettre leurs mégots n'importe où. Et par conséquent, on a recherché à plusieurs, il y a eu plusieurs tendances d'ailleurs qui se sont un peu affrontées, sur comment capter les mégots au plus près de ceux qui sont les détenteurs de ce petit élément qui perturbe tout le monde. Donc on a lancé un système de collecte particulièrement, je dirais, visible, puisque les bornes sont particulièrement visibles au plan de la couleur, au plan de la forme, etc. Et il se trouve que les premiers essais ont été assez concluants et les résultats sont encourageants puisque nos concitoyens qui fument ont bien découvert que la meilleure des solutions, c'était pas de mettre le mégot soit par terre, soit dans la rigole du caniveau d'à côté. Alors l'autre point important qu'il faut signaler dans cette affaire-là, c'est que le mégot, disons en tant que tel, il y a plusieurs solutions pour la fin de sa vie. C'est soit récupérer les éléments qui le constituent, et là il est très complexe ce stade-là, très complexe et peut-être qu'il coûte assez cher à faire. Et puis le nombre de matières récupérées n'est pas forcément suffisamment sensible pour qu'on puisse s'y intéresser. Là, il y a des études qui sont en cours pour vérifier si il faut réellement récupérer le mégot pour ce qu'il est. Et puis l'autre solution, c'est de le valoriser au plan énergie en le brûlant comme le reste des produits qui aujourd'hui ne sont pas récupérables. En final, c'est de la valorisation énergétique dont on pourrait bénéficier par le mégot. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas le brûler n'importe où, puisque les émanations issues de l'incinération des mégots doivent être traitées par des filtres particuliers, ce qui veut dire que c'est plutôt dans les incinérateurs de déchets et de déchets ménagers qu'il faut les mélanger avec le reste. Donc voilà, donc c'est une opération qui ne fait que commencer. J'espère qu'elle aura un avenir au travers de la collecte, parce que le plus dur dans cette affaire, c'est de demander ou d'exiger ou de pousser nos concitoyens à avoir le geste qui consiste à ne pas d'un coup de doigt le balancer n'importe où, mais de le mettre là où il peut encore servir, alors que c'est déjà un produit secondaire, c'est déjà un déchet. Donc on va insister, beaucoup de personnes s'en occupent et beaucoup de personnes suivent l'évolution de ce projet. Nous verrons le résultat après un an ou deux de fonctionnement, mais ce qui est certain, c'est qu'il fallait s'attaquer à un petit mégot qui est un grand pollueur, et pour cela, on a besoin de tout le monde pour avancer dans les solutions.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup. Et puis, nous reviendrons vous voir pour vous demander comment ça fonctionne et si la cigarette, enfin, ne pollue plus, même après sa fin de vie, j'allais dire.
Ça n'est pas pour cela que je prendrai ma première cigarette.
Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Avec Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne et président du territoire Paris-Est-Marne-Bois, se termine ce journal de la santé et du bien-être naturel de juin 2020. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, les sujets étaient variés. Il y en avait pour tous les goûts. Depuis Nathalie, en passant par le docteur Dubos, le docteur Zontag, l'antivol vélo, enfin bon, il y en avait pour tout le monde. Alors j'espère que ce magazine donc vous a plu, que vous serez présent le mois prochain, comme tous les premiers jeudis du mois à 15h. Vous savez que vous pouvez nous écouter, pour ceux qui n'ont pas eu l'écouter en direct, sur les podcasts du site de la radio, à savoir Radio IDFM Anguin 98, ou le podcast, on le retrouve aussi sur mon site personnel, soignéparlesplantes.com. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à réagir à l'émission, et puis ça nous permettra d'avancer, ça nous permettra d'envisager d'autres sujets, des sujets qui pourraient vous plaire, des sujets que vous avez envie de voir abordés. N'hésitez pas à nous contacter, donc. Et puis, j'espère que vous serez fidèles le mois prochain. Et en attendant, eh bien, passez un bon mois de juin et bon courage à tous. Et protégez-vous quand même. Merci. Au revoir.